Yeah! Alors, bienvenue ce soir au Macumba Club, superbe ambiance, touring pour les ladies exclusively. Alors, tout de suite, pour vous servir, votre DJ préféré, Mr. Discoman. Voici le moment que vous attendez toutes et tous, le quart d'heure slowly, le love time.
Oh putain, regarde cette pouf de Kelly. Elle est déjà sur la piste de danse. Ah, puis alors elle fait en sorte qu'on voit qu'elle.
Hein. En même temps, avec ses cheveux rouges, tu peux pas la louper non plus.
Oh mince, il y en a un qui arrive. Reste naturel. T'as rien vu. Mais... putain, tu crois qu'il va inviter laquelle?
Bonsoir, tu danses.
Ouais, d'accord. Bon, mais Brenda, à tout à l'heure. Amuse-toi bien.
Ouais, c'est ça.
Bon, encore une fois, je suis toute seule. Avec tous les mecs qu'il y a dans cette boîte, personne n'invite. Bon, là, je crois que c'est mort. J'ai pas de cavalier, j'en aurai pas. De manière, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hey, Dino, tu me resserres un verre?
Comme Brenda, il nous est tous arrivé de vivre un grand moment de solitude. Pas vrai? En même temps, être en groupe, trouver sa place dans un collectif, c'est pas simple. Alors, nous, professionnels de l'éducation en formation, on s'est penché sur cette question toute la semaine. La solitude, le collectif, l'isolement, l'individu, le groupe, bref, soi et les autres. Que vous soyez seul en voiture ou avec votre collègue à la machine à café, cette émission est pour vous.
Alors, si on considère qu'il y a moi, mon caractère, mon individu, ma personne, bah, je forme un groupe en fait.
Moi, ma vie, elle se passe en collectivité.
7 heures.
Ça commence en famille. Je me réveille par des pleurs. Les pleurs de mon fils de 8 mois. Ça me rend joyeux, car c'est le moment de l'embrasser.
8 heures.
Mon fils aîné de 4 ans fait des péripéties. Il court partout, saute et me pose des tas de questions de bon matin. Papa, pourquoi il pleut dehors? Papa, pourquoi les oiseaux volent? C'est des bonnes questions, mon fils. Mais laisse-moi boire un café d'abord.
8h14, juste avant le départ.
Et c'est toujours comme ça. Mon bébé largue un colis dans sa couche. Il faut le changer. Il a 8 mois, mais je crois sincèrement qu'il le fait exprès. En le changeant, j'oublie vite que le caca déborde de sa couche, parce qu'il me regarde avec sa bouille, qu'il me sourit. Et ça, c'est magique.
9h.
Arrivé au taf. Je suis éducateur dans un foyer. Bon là, ça reste un groupe, mais différent de la famille, bien sûr. Même si les rapports sont professionnels, il y a de l'affect et des liens qui se tissent.
9h30.
Entrée en matière avec les jeunes. Je les chambre sur leur coupe de cheveux, leur crête de coq et leur façon de s'habiller. Fashion, comme ils disent.
Midi, heure du repas.
C'est le moment où on se retrouve tous ensemble, jeunes comme éducateurs. Les échanges sont animés. On parle de leurs copines, l'école, la formation. Parfois, des tensions peuvent apparaître entre eux, ou même contre nous.
Midi 10.
Léo n'a que faire de ces discussions et se lève de table. Même s'il n'a pas choisi d'être ici, l'un de mes rôles est que le groupe prenne vie positivement. Après un long échange, Léo se réinstalle avec nous. Peut-être qu'un jour, il appréciera comme moi ces moments.
17h, fin du boulot.
Je retrouve mes potes, et là, c'est des contractions totales. On parle de football. On joue au football. En clair, j'ai deux amours. Ma femme et le football. Avec les potes, on se raconte des histoires. On passe du bon temps. On sait qu'en cas de coup dur, on est là pour s'entraider. Même si, quand on était plus jeune, certains avaient ce don de te créer des problèmes, au lieu de te les éviter.
20h.
Repas chez mes parents. Il y a mes nièces, mes cousins, mes sœurs et mon frère. Dès que j'arrive, leur regard affectueux me rassure et ça me rend bien.
23h.
Retour à la maison. Mes enfants et ma femme sont couchés. Pour la première fois de la journée, je me retrouve seul. Et franchement, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aime me poser tranquille, sans personne autour de moi, mais juste avec la télé.
Youpi! J'ai réussi mon concours. Fini la galère des petits boulots. Comme je suis contente. je rentre dans la fonction publique. Désormais, je vais bosser comme veilleuse de nuit dans un foyer pour mineurs délinquants. J'ai fait des vœux pour ma première affectation. Il y a pas mal de foyers en Alsace, près de chez moi. Au pire, ce serait Mulhouse. Ouais, 70 km, c'est jouable. Oh la vache! On m'envoie à Chaumont? C'est où ça? 300 bornes? Oh, dégoûté! Comment je vais faire avec ma fille? Ouais, j'avais pas du tout prévu de tout quitter pour ce poste, quand même. Où je vais dormir, là-bas? Je gagne pas assez d'argent pour me payer de loyer. Ouais, c'est cool. Le directeur me dit au téléphone qu'il me mettra à disposition le logement de fonction. Ouf. Le jour J, j'arrive sur place en voiture avec mon sac à dos et mon duvet. C'est mon premier jour de boulot. Moi, je suis un peu stressé, mais bon, j'ai pu m'organiser pour ma fille. Voilà, Kata. À Chaumont, ils ont juste oublié de me dire que finalement, le logement de fonction est déjà occupé. Super l'accueil. Ça commence bien. Après mon premier service, je me retrouve à errer dans cette petite ville. Ouais, c'est pas moche, mais je suis pas d'humeur à apprécier ce qui m'entoure, là. J'ai juste envie de me poser. Du coup, j'opte pour le camping en attendant mieux. Des céréales et un bol de lait feront l'affaire. J'ai vraiment les boules. Au bout de quelques semaines, Chaumont n'a plus de secret pour moi. Finalement, j'ai trouvé une chambre chez l'habitant. C'est pas encore le top. C'est une chambre minuscule dans un sous-sol sans fenêtre. Pas de télé, ni de contact avec les occupants. J'ai aussi pris mes habitudes dans un petit troquet super accueillant. Toujours volontaire pour la belote ou le tarot, ce qui m'a permis de sympathiser avec les habitués. Du coup, ça m'a mis du baume au cœur. Je commence à avoir des repères. Comme quoi, quand on est loin de tout, c'est ces petites choses-là qui font la différence. J'ai mal vécu ces semaines là-bas. J'avais le moral dans les chaussettes. Je comprenais pas l'indifférence des collègues. Pourquoi personne ne m'avait tendu la main? Ça a eu des répercussions sur mon travail et jusque dans ma sphère familiale. Bref, j'ai tout fait pour changer de lieu. Et au bout d'une année, ma mutation a été acceptée. La chance. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la nécessité d'être entourée des personnes qui comptent pour moi et de l'importance de la bienveillance dans les rapports humains. Au final, c'est dans ces moments de solitude que l'on a le temps de penser à ceux qui nous manquent. N'est-ce pas?
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Oui, nous arrivons devant une très belle bâtisse, très ancienne, voilà, qui a tout l'air d'être un couvent. Donc ça porte bien son nom, je trouve. La maison de retraite, les Dominicaines.
Bonjour. Bonjour, je suis Delphine, l'animatrice de la maison de retraite. Ça fait 15 ans que je travaille ici.
Alors on voudrait vraiment savoir comment vous gérez la solitude des résidents dans votre établissement.
La solitude du résident, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer chez nous. Ils arrivent à la maison de retraite par choix ou par obligation et il faut après qu'ils se recréent une vie sociale. Donc la solitude, comment la vaincre? Eh bien, par nos visites, par nos propositions d'activité, par le soin, puisqu'il y a une équipe soignante qui est là au quotidien et qui donc leur propose les soins dont ils ont besoin matin et soir, par des bénévoles qui interviennent dans la structure. Et puis après, on a aussi des personnes qui sont seules et qui sont dans leur chambre par choix, qui ne veulent pas être mêlées au reste du groupe.
Vous nous parliez justement des activités, pouvez-vous nous les décrire?
Il faut savoir qu'à maison de retraite, on ne fait pas que jouer au loto. Voilà, beaucoup qui croient que être animateur, c'est jouer au loto. Non, être animateur, c'est beaucoup réfléchir, c'est beaucoup faire de recherche. Et c'est vraiment travailler en fonction des capacités de chacun, en fonction des problèmes cognitifs et des difficultés physiques qu'on rencontre avec les personnes âgées. Et après, nous avons des ateliers loisirs, comme aujourd'hui, vous avez pu voir le chant. C'est le salon principal, en fait, où on fait aujourd'hui l'activité. Il y a l'intervention. Voilà. Donc là, il y a à peu près 20-25 résidents. Voilà. Et il y a une douzaine de résidents qui restent en chambre après, à peu près en permanence, quoi. Voilà. Après, il y a des personnes qui restent dans le couloir, comme vous pouvez voir, derrière et devant moi, qui aiment bien écouter, mais pas trop se mêler. Voilà. Qui aiment bien être là sans être là. Voilà.
Mme Aigli ? Delphine ?
Bonjour.
Bonjour Madame Aigli. Est-ce qu'il serait possible de savoir votre âge, s'il vous plaît ?
J'ai 74 ans.
Et depuis combien de temps êtes-vous à la résidence ?
Ben, ça fait 2 ans à peu près.
On aimerait vous poser la question suivante. Est-ce que vous aimez vous isoler ?
On est obligé de s'isoler quand il y a un problème de santé. Je suis obligée.
Pouvez-vous nous donner votre vision de la solitude ?
La solitude, c'est... C'est-à-dire que quand on est entouré de... Quand on est entouré de personnes, c'est très agréable, mais vous voyez, quand ils nous quittent, c'est triste. Il y a une personne, justement, qui est mangée à la table avec moi et qui nous a quittés. Alors, il ne faut pas s'attacher non plus. La solitude, mais je pense que c'est nous-mêmes qui la créons, volontaire ou involontaire. Voilà. Ce n'est pas que je me lie pas facilement avec les personnes, c'est que je suis obligée, moi, de rester allongée et c'est un problème. Et moi, j'ai de la chance d'avoir la télévision, mais c'est vrai que si je n'aurais pas la télévision, j'aurais tendance à être... je serais malheureuse. Excusez-moi, je suis un peu timide.
On l'attend, on la subit, mais toujours elle sanctionne la fin d'une carrière, de la vie active et implique, du coup aussi, un âge canonique. Bien sûr, elle ouvre un champ de possible, je vais pouvoir voyager, m'occuper du jardin, de la maison, aller au musée, prendre du temps pour moi, pour ne rien faire, pour les petits-enfants et finalement, beaucoup s'emmerder. Pour moi, la retraite n'a été ni une question de trimestre, ni une fin de rien, mais plutôt une réponse à mes doutes, un début de cheminement. Un vrai moment choisi que je me suis offert pour me retrouver. Peut-être juste me trouver. Quelques jours loin de tout, dans une communauté, religieuse pour certains, de vie pour moi, histoire de communier avec la nature, de revenir aux sources. Je suis musicienne, sensible de fait aux accords et aux désaccords, aux vibrations, aux dissonances. Quelle cacophonie autour de moi! Téléphone, télé, cris, klaxon, embouteillage, le tout fortissimo. Personne ne s'entend, on ne m'entend pas, je ne m'écoute plus. Pourtant, un tympan bouché et on perd l'équilibre. Ce vacarme a de quoi ébranler. Dans cette valse à mille temps, qui n'offre même plus le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, je perds mon tempo, je me désaccorde. Alors, je suis partie. Loin du bruit, du quotidien, du stress, du boulot, de la famille envahissante, trop parfois. J'ai fait une pause de plusieurs mesures. Des tintements de cloches, un cœur d'homme vibrant qui marque les temps forts de la journée, des pas feutrés le long des couloirs ou dans les réfectoires. S'accorder à ce rythme. Entrer en résonance. Réapprendre la musique du silence. Marcher, beaucoup. Regarder, laisser errer le regard. Affûter ses sens. Percevoir le bruissement du vent. Se délecter du chant des oiseaux, s'émerveiller de leurs trilles, de la richesse de leurs mélodies, de l'harmonie de leurs échanges. Distinguer, plus loin, en tapis sonore, le clapotis de l'eau d'un ruisseau, le grondement sourd de l'orage, l'écho d'un hameau. Deviner la vie dans les sous-bois, ses soupirs, ses respirations, ses élans, comme une symphonie pastorale. Respirer, sentir, ressentir, être là, s'accorder, trouver son là, le laisser vibrer, se mettre au diapason, faire partie du tout. Et puis je suis rentrée, téléphone, télé, cri, klaxon, embouteillage, tout a repris avec la même nuance, mais en m'isolant un peu, j'entends au loin tinter les cloches et je carillonne avec elles.
Voilà, moi je suis Karim.
J'habite dans le coin des Cévennes, là, du côté de Ganges, le Vigan, depuis une dizaine d'années. Et voilà, c'est là où je fais mes activités musicales.
Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la batucada ?
Ouais, batucada, ça vient du verbe bater en portugais qui veut dire faire du bruit. Donc batucada, en fait, ça ne s'utilise pas au Brésil, mais une batucada, c'est un orchestre de percussion brésilienne. Mais si au Brésil on parle de batterie, c'est parce qu'en fait c'est vraiment ça a le rôle d'une batterie. Donc c'est toujours normalement pour accompagner des mélodies.
Est-ce qu'il y a parfois des solos ou c'est toujours en groupe ?
Donc on joue jamais tout seul, ça c'est pratiquement certain. Il y a des systèmes de questions-réponses, etc. Mais après dans la batouque, il y a quand même toujours des instruments solistes qui ont quasiment aucune partition écrite. Après c'est pas du tout l'essence de l'histoire. C'est pas une musique jazz et l'objectif c'est plus une transe, un rythme, une énergie que de l'expression individuelle, d'autant plus si on joue à nombreux. Nous, on fait des formules à pas nombreux. Là, il y a de la place pour de l'improvisation ou pour un peu de ressenti individuel. Mais dès qu'on est 50 ou 100 ou encore plus à 400, bon, la variation individuelle, c'est pas l'histoire, quoi.
Quelle est la nécessité d'être en groupe pour ce style de musique, en fait ?
Tout simplement parce que c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que vraiment, les percussions, on est dans un univers instrumental limité. Chaque percussion fait peu de son. Et du coup, si je prends une percussion basse à moi tout seul, ça va vite ennuyer tout le monde, même moi, à vrai dire. On a besoin d'avoir plusieurs sons, en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. Le groupe, il est là, déjà.
Et toi, est-ce que tu as un rôle particulier dans ton groupe de batucada ?
Ouais, j'en ai plusieurs. Alors, pendant longtemps, j'ai quand même surtout l'idée, donc chef d'orchestre, quoi, maître, comme on dit en brésilien. Mais il faut connaître tous les instruments, donc je suis capable de mettre un peu à tous les postes. Et à vrai dire, je les aime bien tous.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire que dans ces moments-là, du coup, tu es finalement un peu seul, mais au milieu du groupe ?
Oui, on peut se sentir seul dans le groupe. Je pense que dans les batouks, en tout cas, ce qui peut ressortir comme situation d'isolement, c'est effectivement le chef face aux autres. Parce que dès qu'on commence à vraiment fonctionner sous un mode de pouvoir, on se retrouve vite tout seul face aux autres, quoi. Après, là, je suis plus seul sur le coup, on est plusieurs. Et puis, c'est comme tout le niveau global monte, et petit à petit, ma place à moi devient moins proéminente, en tout cas musicalement. Et donc, les autres ont de plus en plus l'occasion de s'exprimer. Ça y est, je me mets moi aussi à apprendre de mes collègues ici, enfin... Voilà, ça s'équilibre tout ça. Je veux dire, moi j'ai besoin du groupe, le groupe a besoin de moi, et puis toutes les places sont intéressantes et sont nécessaires les unes aux autres. Enfin voilà, ça, on bosse ensemble quoi.
Donc finalement, la batucada, c'est une histoire de cohésion.
C'est une histoire de cohésion, oui, ouais, carrément. Puis surtout, peut-être, c'est pas une histoire de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il faut savoir, le mot chef y est, le mot maître, donc maître y est, mais c'est pas pour autant qu'il y a une notion de hiérarchie qui se met en place. Je pense que pour nous, on peut s'en passer. On peut avoir un lead musical sans pour autant avoir un lead tout court, quoi. C'est, voilà, la subtilité, elle est peut-être un peu là, quoi.
Un proverbe arabe. Li yakul wahdou, jayef roha. Qui mange seul, s'étrangle seul.
Quand j'étais ado, ça doit remonter à l'époque du lycée ou du collège, ma première préoccupation était de ne surtout pas me retrouver seul. Quand t'es seul dans la micro-société qu'est un lycée, t'es rien. Nada, naze, que dalle. Tu dois te débrouiller pour faire partie d'un groupe, et si possible, le bon. Pas celui des reclus ou des intellos, car sinon tu restes naze, mais en groupe. Ce qui est peut-être pire. Non, mais imaginez, déjà j'avais des grosses lunettes, des cheveux frisés, et non lisses comme le veut le code, et j'ai jamais été très fine, ni vraiment féminine. Alors il me fallait au moins le bon groupe. Heureusement pour moi, j'étais copine depuis longtemps avec Kelly. Si ça, c'est pas un nom de fille populaire, avouez que vous vous l'imaginez déjà. Fine, cheveux rouges, et lisse, bien sûr, regard assuré et une facilité déconcertante à se faire de n'importe qui un ami. Voilà comment je me suis retrouvée dans le groupe, celui des populaires. Celui où t'as la meilleure place dans le bus, vous savez, tout au fond, et où tu commences à fumer pour te donner une contenance. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que je faisais partie de ce groupe par procuration que j'étais moi-même populaire. J'étais juste la copine d'eux, mais ça m'allait bien parce que ça me protégeait et me permettait de ne pas être seule. C'était cool d'être dans ce groupe, même si en soi, je trouvais les gens faux et que leurs goûts musicaux laissaient franchement à désirer. Mais j'écoutais quand même les mêmes musiques qu'eux et me conformais gentiment à leurs exigences. Quitte à se perdre, on s'en fiche tant qu'on est considéré qu'on existe, même si en réalité, on reste plutôt seul au milieu de tout ça. Ce n'est que du simulé. Cette confrontation entre mon moi réel et cette pâle façade qui me convenait s'est arrêtée du jour au lendemain par un déménagement. Direction, un nouveau lycée, avec cette impression d'avoir tout à reconstruire. Et quel bouleversement. Tout le monde se connaissait depuis Mino, et moi là-dedans, j'étais devenue transparente. Rien. Nada. Naze. Que dalle. Retour à la case départ. Après avoir bien cherché dans tous les coins de ce nouveau lycée, et même jusqu'aux toilettes, où j'adorais faire passer la récré, car au moins on se rendait moins compte que j'irais seule, j'ai trouvé d'autres nazes, quelques nadas, et même certains que dalle, qui m'ont accueilli les bras ouverts. Il suffisait juste d'ouvrir les yeux. Mais mieux, avec eux, j'ai découvert un truc magique. Le droit d'être moi, juste moi, et d'être apprécié justement pour ça. Bon d'accord, ils avaient des défauts ces nouveaux amis, mais qui n'en a pas. En étant quelqu'un pour eux, j'ai appris à être quelqu'un pour moi. Quand on sait qu'on a un rôle et qu'on est important pour une communauté de personnes, alors on peut se permettre de s'en éloigner sans craindre d'y perdre sa place. J'ai même fini avec les années par apprécier la solitude, voire même par en avoir besoin. Je me découvre seule, je m'apprivoise. Et la bête n'est pas docile, croyez-moi.
Oh les filles là-haut, hey, venez là là. Bon alors les filles là, je sais pas pour vous mais on joue pas collectif là.
Oh, mais coach c'est Brigitte, elle joue perso, elle fait pas les passes.
Oh, ça va, ça va.
Je m'en branle, règle de base du rugby, groupir tout le monde. Vous êtes quoi là?
Une équipe.
Non, j'ai rien entendu. Tous ensemble, pas de perso, vous êtes quoi?
Une équipe.
Et les autres en face, on en fait quoi?
Des boulettes.
Voilà, c'est ça, ça c'est mon équipe de championne.
Le groupe, je l'aime et je le déteste. Je l'aime s'il m'apporte quelque chose. Par exemple, mes amis, car c'est bon d'être avec eux. Et ma famille, pour voir grandir mes enfants. Je le déteste quand il est destructeur, comme un groupe de fanatiques, prêts à tuer pour son équipe. Le groupe qui rend con, qui t'empêche de penser, ça m'est insupportable. Il est tellement facile de se laisser porter par le groupe, pour ne pas réfléchir. Alors, tu te retrouves à cautionner ou à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Pour toutes ces raisons, je m'en méfie, car il peut vite te trahir. Au quotidien, je dois faire avec le groupe. Au travail, à la maison, au club de sport, bref, partout, il m'envahit. Alors, pour le supporter, la solitude est vitale pour moi. Dans ces moments, je suis toujours actif. Je fais du sport, je lis, je vais au cinéma. Parfois, mon besoin d'être seul effraie mon entourage, qui pense que je suis indifférent, égoïste. Ce n'est pas ça. C'est un besoin de liberté, de me ressourcer, de pouvoir faire sans la contrainte de l'autre. Ne pas être un mouton. La solitude me permet d'explorer mes limites, de résister aux influences du groupe, d'être moi-même, d'affronter la réalité, quitte à me faire mal et à avoir peur. Par exemple, quand j'étais à Amman en Jordanie, j'ai décidé de partir à Jérusalem en bus en me mettant dans la peau d'un simple voyageur. J'ai été traité comme un potentiel terroriste par les autorités israéliennes à la frontière et vu avec quel mépris on traite les Palestiniens. J'ai ressenti l'ambiance de guerre et le fait d'être en solitaire, ça m'a donné le sentiment d'être vulnérable à tout moment. J'y suis resté que quelques heures et j'étais bien heureux de repartir et de retrouver mon groupe pour raconter mon aventure. Un vrai dilemme, cette solitude, à la fois nécessaire et dangereuse, tout comme le groupe, finalement.
Eh bien, notre émission touche à sa fin. Je suis sûre que ça vous a évoqué à vous aussi une histoire vécue seule ou en groupe. Je conclurai par une simple phrase. On peut aimer la solitude, mais on n'est rien sans les autres. C'était Brigitte, Chérif, Cynthia, Franck et Karine. Nous tenons à remercier l'EHPAD, les Dominicaines de Ganges, en particulier Delphine Bastide et Madame Aigli, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans sa chambre. On remercie aussi Karim et son groupe de Batucada, du Pont des Raux. Un grand merci à Escapade, qui nous a accueillis, ainsi qu'à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, sans qui ce stage n'aurait pas été possible. Également à Evelyne et Franck de Ça parle hypocrète pour leur excellente cuisine et leur bienveillance. Enfin, on n'aurait pas pu faire tout ça sans l'association Wakadi. Et bien sûr, on remercie nos formateurs, Jean-Jacques Chauchard et Magali Nérac, pour leur patience et leur bonne humeur. On espère que vous vous êtes régalés à nous écouter autant que nous à monter cette émission. À bientôt.
Oh, lonesome cowboy, yeah. I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy, I'm a poor lonesome cowboy.
Excellent.